Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Il y a quelque chose qui flotte dans l'air pour cette émission de Peut contenir des infos et c'est un vent, mesdames, messieurs, un vent de nouveauté, un vent, j'oserais presque dire, de fraîcheur.
Hey, c'est toute une pression pour une arrivée.
Mais non, mais c'est une nouvelle voix que vous allez entendre dans Peut contenir des infos. On a eu l'occasion au cours des deux premières années d'entendre François Côté. Depuis l'automne passé, c'était Sébastien Boucher. On ne l'a pas poussé vers la porte de sortie, là, c'est pas ça l'histoire. Mais pour comme vous préparer à son arrivée automnale, Cathy Morin, comment ça va?
Bien, ça va bien. Écoute, c'est une belle mise en bouche, je dirais ça comme ça, une belle entrée de jeu, effectivement.
Belle entrée en matière pour vous la présenter. C'est elle. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, à compter de l'automne à l'Alliance des radios communautaires du Canada?
Bien, je suis déjà agente de programme là, pour l'initiative, okay, d'initiative de journalisme local. Donc, je vais être là. Je vais aussi animer Peut contenir des infos, peut-être d'autres choses aussi. On regarde si on peut être créatif un petit peu. Fait que je vais être là, puis qui sait, peut-être qu'on inversera les rôles. Tu seras peut-être mon co-animateur. On regardera la formule. On est en train de travailler ça, mais c'est un beau terrain de jeu. Puis il peut contenir des infos. J'aime beaucoup le format de l'émission. J'aimais aussi beaucoup le ton, tu sais, de pouvoir accompagner les gens, puis que ce soit un peu léger, mais informatif en même temps.
Alors, on verra cet automne si ça va prendre encore cette forme-là, s'il va y avoir des collaborateurs, de quelle façon l'information va être traitée. Mais grosso modo, ça risque en tout cas beaucoup d'être encore un show d'information.
Oui, il y a des bonnes chances. Je vais essayer de pas briser tout ce que tu as fait, Simon, parce que tu as quand même fait du beau travail. Mais effectivement, on va essayer d'informer les gens, d'avoir des sujets qui vont toucher un peu tout le monde, parce que c'est grand le Canada, mais en même temps, on va essayer de rejoindre tout le monde parce qu'on a tous un peu des intérêts communs aussi. Puis on va essayer de garder cette belle nature de cette émission-là.
C'est ça, c'est trouver les dénominateurs communs pour parler autant aux gens qui sont en Atlantique que ceux qui sont sur la côte du Pacifique, grosso modo.
C'est en plein ça. Fait que tu douteras qu'on parlera peut-être pas trop de politique, parce qu'on a quand même des opinions différentes.
OK, alors parfait. Parfait. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? L'annonce des sujets du deuxième, troisième, puis même le quatrième quart d'heure. Là.
En fait, j'avais envie de te parler, puis de vous parler aujourd'hui de l'impact des starter packs. On a vu ça un peu sur les réseaux sociaux, ça sortait, il y en avait partout, puis un moment donné, il y avait juste ça à un point où on n'en était plus capable. Fait qu'il y a quand même un impact environnemental là-dessus assez important que je voulais vous parler. Je vais aussi vous parler de la liberté de presse, parce qu'on a connu le classement mondial de Reporters sans frontières. Donc, c'est un classement qui sort annuellement sur comment se passe le journalisme un peu dans le monde. Puis bon, les nouvelles sont plus ou moins bonnes, mais quand même, on va en parler, on s'en tire bien au Canada. Et finalement, je voulais vous parler aussi des cellulaires à l'école, parce qu'au Québec, on a statué, on va bannir complètement. C'est peut-être quelque chose qui pourrait devenir d'un océan à l'autre. Ça fait beaucoup jaser aussi dans les chaumières, fait que j'avais envie d'en discuter avec vous autres.
Oh boy, là, il y a des gens, ça va alimenter des discussions à table pour le souper, ça c'est clair, les cellulaires. Puis c'est toi qui vas s'occuper du quiz cette semaine, c'est vrai?
Oui, bien tant qu'à faire un peu avec, comme les mamans oiseaux font, on me jette en bas du nid, donc j'y vais, puis on va faire le quiz, okay. Puis je te lance le thème, en fait, ce sera le Canada.
OK.
C'est simple que ça.
OK, on va se promener d'un océan à l'autre, grosso modo.
Tout à fait, puis un peu les beautés qui cachent notre pays.
Je vais vous parler, moi, dans l'émission du syndicalisme, entre autres choses. On entend parler de temps en temps de grève et tout ça. On sait qu'il y a des mouvements syndicaux derrière ça. C'est né quand, ça, le syndicalisme? C'est-tu bien vieux? C'est quoi les prémices de ça? Je vous glisserai un mot de ça là-dessus. On va vous parler également de l'Antarctique. On pensait que la glace n'arrêtait pas de fondre, mais on s'est aperçu dans les dernières années que, oh, surprise! Ça recommence. Commence à avoir de la glace, tu sais, la calotte glaciaire commence à reprendre du poil de la bête. Et puis, vous savez qu'il y a des gens qui donnent leur corps à la science une fois qu'ils sont décédés?
Oui, tout à fait. Les organes, des fois, les yeux, le cœur.
J'ai un oncle qui a fait ça, moi.
Ah, oui?
Oui, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il est décédé, il a donné son corps à la science pour que les jeunes apprentis médecins puissent apprendre la médecine.
C'est généreux quand même.
C'est très généreux.
On doit beaucoup à ces gens-là.
Mais il y a un homme, lui, qui donne son corps à la science de son vivant. Oh. Et puis pas pour rien, Paul, vous allez voir. En fait, il donne une partie de son corps, son sang, en l'occurrence. On va parler de ça tantôt.
Intéressant.
Tu commences avec quoi comme sujet?
En fait, je vais te parler justement des starter packs. Là, on parlait d'environnement, on parlait... Est-ce que toi aussi, tu as eu un peu cette vague-là sur tes réseaux sociaux des fameux starter packs?
J'ai vu, mais je n'ai pas essayé de starter pack.
Moi non plus. Moi, je t'inquiète pour mes données en premier.
C'est la première affaire.
C'est ça. Tu sais, je me dis, bon, là, il me demande mes intérêts, ce que je fais. Fait que là, déjà là, je suis premier petit drapeau rouge, peut-être, de questions à se poser. Puis ensuite, ben, je me suis dit, il y a vraiment beaucoup de gens là-dessus. Fait que, il doit avoir un impact environnemental. Puis il faut dire que dans la première heure seulement, où cette application-là a été lancée par ChatGPT, parce qu'on pouvait le faire avec l'assistant, c'est 700 millions de requêtes.
Wow!
700 millions de requêtes en une heure.
Hey, c'est wow!
Comme quand même, c'est une grosse demande. Fait que là, déjà là, à ce moment-là, le PDG de ChatGPT a dit, ben là, nos serveurs sont en train de fondre littéralement. Et là, tu te doutes où je m'en vais avec ça. Comment on parle d'effet environnemental avec des images sur le web? Le refroidissement des serveurs.
Ah, ben c'est clair.
Parce que entre toi et moi, si on écrit un courriel, bon, ça demande une certaine énergie aux serveurs, aux ordinateurs de refroidir. Mais si on demande à ChatGPT de le faire à notre place, bien là, ça devient que c'est un impact encore plus grand. Fait que si toi et moi, on écrit un courriel 100 mots à peu près, bon, c'est pas grand-chose, pas un gros impact. Mais si c'est l'intelligence artificielle qui le fait, c'est l'équivalent de 2 bouteilles d'eau quand même.
Ah, wow!
Et là, on parle d'un courriel de 100 mots.
OK. Si c'est l'intelligence artificielle qui est en train de l'écrire à notre place, grosso modo.
Exactement, okay. Exactement. Fait que okay. C'est pratique, là, j'en conviens. Puis des fois, des lettres de félicitations ou des lettres de ci, de ci. Bon, on peut prendre le modèle, ça peut aider, mais quand même, il faut penser à ça. Fait que là, si on se dit un courriel sans mots, c'est pour 2 bouteilles d'eau. Comment tu penses que ça peut prendre de litres d'eau pour créer une image sur ChatGPT?
Oh my God, c'est des litres, j'imagine.
Oui, c'est des litres et des litres. En fait, c'est entre 2 et 5 litres d'eau.
OK.
Pour une image.
OK. Donc, ça sert à quoi, cette eau-là? C'est pour refroidir?
Oui,
ça,
encore une fois, pour refroidir les serveurs. Comme l'énergie qui est demandée pour créer cette image-là, bien, ça demande 2 à 5 litres d'eau de refroidir pour pas que les ordinateurs surchauffent là, en créant ces images-là. Fait quand même, c'est un bon, pensez-y bien. Puis des fois, quand on arrive dans ces espèces de tendances-là, on se dit, ah, c'est le fun, j'ai envie d'embarquer dans le trend, j'ai envie d'être là. Mais on pense pas plus loin.
Ben,
puis c'est un peu comme pour le recyclage. Si une personne fait son effort, il n'y a pas une grande différence. Mais si tout le monde embarque, ben c'est là où on voit vraiment qu'il y a peut-être plus d'impact environnemental. Bon, est-ce qu'on doit arrêter d'utiliser ChatGPT?
Bon, je suis pas convaincu. Là.
Non, moi non plus. Je pense que ça reste quand même un bel outil, puis ça reste quand même intéressant. Mais justement, il faut peut-être avoir cette conscience-là de, bon, est-ce que je le fais vraiment pour le plaisir ou ça a peut-être un intérêt plus important? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est peut-être pour des occasions? Mais si c'est vraiment juste pour peut-être le plaisir, on peut s'en passer. Mais en même temps, c'est un petit peu le fun aussi.
Ben oui, non, mais c'est sûr et certain. On peut voir les mauvais côtés de l'intelligence artificielle puis se projeter dans le futur en se disant il y a bien des mauvais côtés puis tout ça, mais il y a quand même certains avantages. Puis c'est bien le fun de temps en temps de poser une petite question, là.
Oui, tout à fait. Puis tu sais, on parlait de courriel tantôt aussi, puis il y a des choses où on se dit, ah ben peut-être corriger le courriel ou comment je pourrais rendre ce courriel-là peut-être un peu plus attrayant ou plus professionnel. Fait que c'est sûr que ça peut aider, mais il faut toujours avoir en tête que cette intelligence artificielle-là, ben a un coût et un impact environnemental aussi.
Très intéressant, puis on est en train de prendre conscience que finalement, ça prend pas mal d'eau là, pour faire quelque chose qui est somme toute...
Bien, c'est ça, puis c'est côté impact planétaire. Là. Si tu y penses, là, ChatGPT consomme plus de 148 millions de litres d'eau chaque jour.
Wow!
Chaque jour. 148 millions de litres d'eau.
J'étais un petit peu flabbergasté, je dois dire.
Oui, bien, ouais. Puis écoute, c'est comme 60 piscines olympiques. Pour le comparatif, là, pour donner un petit quelque chose. Fait que, quand même, mais c'est ça. C'est, tout est dans tout, hein, comme on dit, tout un impact. Il faut juste y aller avec parcimonie.
Effectivement. Je veux vous parler un petit peu de quelque chose qu'on pensait perdu d'avance. Là. On se disait que c'est quasiment rendu irréversible, la fonte de la calotte glaciaire en Antarctique, en l'occurrence. Elle a d'ailleurs fondu à un rythme assez phénoménal pendant à peu près une vingtaine d'années qu'on a mesuré la fonte de la calotte glaciaire. Et puis, on pensait que c'était peine perdue.
Oui, oui, tout à fait. Puis on s'en allait là, le réchauffement climatique.
C'était irréversible. Mais ce qu'on s'est aperçu depuis 2021, c'est que la calotte glaciaire en Antarctique, elle a recommencé à prendre du poil de la bête, si vous me prêtez l'expression. Elle a recommencé à grossir, ce qui est assez spécial.
Puis oui, puis je me demande un peu pourquoi aussi.
La raison pour laquelle on la surveille étroitement, et ça, c'est le travail évidemment de scientifiques et de satellites et tout ça, c'est que ça peut avoir un impact assez déterminant sur les niveaux de la mer.
Bien, certainement. Parce que là, la fonte faisait augmenter le niveau de la mer. Fait que là, est-ce que le gel ou la refonte glaciaire va restabiliser les niveaux?
Ah, ben oui. C'est ça qui est magique dans sa patente-là, c'est ça. Alors, on utilisait, en fait, depuis 2002, on utilise 2 satellites en particulier, le satellite GRACE, et avant, il y a eu son prédécesseur, pour ainsi dire. Et ces 2 satellites-là, depuis à peu près une vingtaine d'années, depuis 2002, ils mesurent la calotte glaciaire de l'Antarctique. Et ce qu'on s'est aperçu de 2002 à 2010, c'est que la calotte glaciaire a perdu tout près de... Vous embarquez sur la balance, vous perdez 3-4 livres, vous trouvez ça fantastique.
Hey, surtout avant l'été de même. Là,
ben, tu sais... Alors là, on a parlé pendant de 2002 à 2010, 74 gigatonnes de glace perdue par année. Attendez.
Par année.
Par année. Et puis, de 2011 à 2020, la fonte s'est accélérée. Et puis là, on était rendu qu'on perdait 142 gigatonnes par année environ. 142 GT gigatonnes. C'est de la glace, c'est du continent qui est en train de fondre.
Je connaissais même pas cette unité de mesure-là.
Oui, giga, ben alors. Alors, les raisons pour lesquelles, de façon assez subite, tout d'un coup, entre 2021 et 2023, loin de fondre, la glace a au contraire augmenté. Elle a augmenté de 108 gigatonnes de plus par année pendant ces deux années-là. C'est qu'il s'est mis à avoir des précipitations.
Ah!
Les fortes précipitations qui ont recommencé entre 2021, 2022, 2023 ont fait que la glace a recommencé à prendre en Antarctique.
Hey, c'est incroyable. Puis là, on parle de précipitation de neige qui va aider à former. Puis tu sais, il y avait quand même la faune aussi qui était là puis qui avait des gros impacts. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle.
Des manchots et tout ça, exactement. Alors, le niveau de la mer avait augmenté de 0,20 mm par année entre 2002 et 2010 et jusqu'à 0,39 mm. C'est pas grand-chose, mais c'est à l'échelle de la mer à la surface du globe.
Et puis mondial, on s'entend. Ben,
exact.
C'est immense.
Et là, en contrepartie, avec cette calotte glaciaire qui a recommencé à prendre un peu du volume pendant ces deux années-là, eh bien là, au contraire, le niveau de la mer a baissé de 0,30 mm par an de 2021 à 2023.
Wow! C'est quelque chose. On s'est quasiment repris pour quelques années. On s'entend, on n'a pas 20 ans, là, mais...
Non, non, mais c'est ça la grande question. Là. Ce qu'on se demande, c'est est-ce que ça va durer? On espère, on croise les doigts, parce qu'on le voit, ça a quand même un impact sur le niveau de la mer. Et la raison pour laquelle on espère qu'on ne va pas revenir en arrière et à un rythme plus accéléré, c'est que, tenez-vous bien, si les glaciers de l'Antarctique venaient à fondre entièrement, et on va clore là-dessus avant la pause, le niveau de la mer pourrait augmenter de... As-tu une petite idée?
Non, non, mais ça doit être quand même à 2
Deux, on trois. Va jusqu'à 7 mètres.
Oh, mon Dieu!
Si l'Antarctique fond au complet, le niveau de la mer va grimper de 7 mètres.
Hey, on perd les îles, on perd plusieurs choses.
On perd pas mal d'affaires. Alors, croisons les doigts que cette espèce de recul, pour ainsi dire, là, de mouvement qui s'était accéléré pendant les 20 dernières années, espérons que ça va durer. Mais tu sais, la nature, il n'y a rien de certain là-dedans, comme on dit.
Non, on va aller faire une petite danse de la pluie, peut-être. Pour les
Ah, idées. Ça, c'est une bonne idée, ça, pour faire amener de la glace et tout ça. On marque un temps d'arrêt, on vient dans un instant. Notre première pause de l'émission peut contenir deux infos. Et puis, on revient avec encore davantage de sujet. Tu sais de quoi tu vas parler tantôt?
Oui, on va parler de liberté de presse.
OK.
Peut contenir des infos.
Peut contenir des infos qui va vous parler maintenant de quelque chose d'assez particulier avant d'attaquer le sujet de notre amie Cathy qui va parler tantôt de...
La liberté de presse dans le monde. En fait, on a eu le classement annuel qui a été sorti récemment.
Puis le Canada recule, je pense, ou quelque chose.
On recule. Il y a des changements, puis bon, on s'en doute un peu avec le contexte actuel, mais quand même, il ne faut pas perdre espoir.
Vous savez qu'il y a des gens qui donnent leur corps à la science quand ils décèdent?
Oui.
Soit leurs organes, par exemple, ou même dans certains cas, leur corps complètement pour aider les jeunes apprentis médecins, justement, à pratiquer la chirurgie et tout ça, puis voir où tout est placé dans le corps humain, certaines pathologies, des choses comme ça. Mais Tim Freed, celui dont je vous parle aujourd'hui, lui a décidé plutôt de donner son corps à la science, ou plutôt son sang, alors qu'il est vivant.
C'est particulier quand même.
Je vous explique. Et là, vous allez comprendre. Le gars est fasciné par les reptiles et d'autres serpents, d'autres créatures venimeuses depuis longtemps.
Oh non.
Et Tim s'est adonné, tenez-vous bien, depuis pratiquement 20 ans, à quelque chose d'extrêmement dangereux et qui n'est pas particulièrement recommandé. Essayez pas ça à la maison, comme on dit, là.
Non, non, ben non, okay? Franchement.
C'est pas très, très brillant, très honnêtement. Lui, il s'est exposé volontairement pendant presque 20 ans au venin de serpent.
Oh, moi, je me demande comment l'idée est venue en premier. Tu sais, c'était-tu assis autour d'un feu avec des amis, avec une bière? « Hey, les gars, on devrait essayer ça. » Quel est l'objectif, tu sais? Parce que quand même, c'est dangereux.
Lui, il trippe sur les serpents puis les bébites venimeuses. Et il a commencé à un moment donné à, j'allais dire collectionner, mais élever, on va dire, les serpents.
OK, élever, c'est assis, serpent, assis.
C'est ça, il s'est fait un élevage de serpents. Il n'avait quelques-uns, puis ça a commencé à grossir, grossir, grossir. Puis là, à un moment donné, il s'est dit, « Si je viens par me faire mordre, là, je risque de mourir. » Alors, son but initial, c'était de se protéger contre les morsures des serpents avec cet élevage de serpents qui a commencé à grossir. Et un jour, il s'est dit, est-ce que ça serait possible de m'auto-immuniser dans une certaine mesure en m'exposant volontairement à des petites doses de venin?
Un peu comme on fait peut-être avec les abeilles, là, comme on essaye, ou avec les fraises, certains allergènes, j'imagine, mais c'est...
L'idée était bonne. L'idée était particulièrement bonne parce que c'est exactement ce qu'on fait quand on désensibilise des gens à des allergies. Moi, par exemple, je suis allergique à un paquet d'affaires, puis j'ai essayé à un moment donné de me faire désensibiliser.
Ça a bien été?
Ça n'a pas bien marché. C'était les acariens, puis le pollen des arbres, puis tout ça. À un moment donné, j'ai fait un choc anaphylactique parce qu'il était rendu que la dose était trop forte. J'ai fait comme, on arrête ça, là. OK, on continue pas.
Une chance, c'est pas allergique aussi.
Tu viens d'être capable de respirer, t'as la face toute rouge, puis tout ça. Tu pars en panique un petit peu, tu dis...
Hey, ça a l'air le fun.
Pas l'avoir voulu, ça aurait été pas pire. Oui. Dans le sens où ça s'explique. Mais quand tu t'exposes volontairement, tu vas te faire piquer dans une clinique médicale, puis tu deviens malade, tu fais comme, non, c'est correct, là, je vais arrêter.
Oui, on va laisser faire.
Alors lui, il a fait ça volontairement et il s'est laissé mordre, écoutez ça, pendant toutes ces années-là, plus de 200 fois par des serpents, mais il n'a pas commencé par se faire mordre, là.
Okay.
Alors, tout et pour tout, il a été exposé plus de 800 fois au venin de près d'une vingtaine d'espèces de serpents parmi les plus venimeuses de la planète. Il extrayait, comment on dit ça?
Extraire
du venin en petite quantité. Il se faisait un sérum avec ça dans une certaine mesure, puis il shootait ça.
Il faut quand même avoir des connaissances aussi. On s'entend? Ben, parce que la quantité, là, ça doit être une histoire de...
Il a fait de la lecture.
Oui.
C'est ça, il a fait des lectures. Mais c'est un gars qui a un diplôme d'études secondaires, là.
Okay.
C'est pas un spécialiste en immunologie ou en quoi que ce soit du genre.
C'est
un passionné. Il a fait beaucoup de lectures, exactement. Puis il s'est dit, ça marche pour désensibiliser du monde à des allergies, par exemple, comme les acariens ou des choses comme ça. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour les serpents? Puis c'est un petit peu ça, dans le fond, son fonctionnement, le raisonnement.
Oui, mais on s'entend que le serpent, c'est du venin qu'il te donne. Un allergène, c'est ton corps qui réagit à un corps. En tout cas, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais je peux comprendre. Puis pour lui aussi, en même temps, il était tellement exposé au serpent que c'était une façon de se protéger. Et tous ceux et celles qui vont en voyage en Australie, entre autres.
Ben, exactement. Et ça n'a pas été sans conséquence. Hein. Il a perdu un doigt dans son affaire. Exactement. Il a été dans un coma pendant 4 jours. Un jour assez chouette. Il a même perdu une conjointe qui a dit à un moment donné, je suis tanné de te reconduire à l'hôpital, là. Parce qu'à cause, tu as des buzz. Fait que c'est ça. Mais son immunité hors du commun, ça lui a valu, pour ainsi dire, un job dans une certaine mesure, ou enfin d'être repéré par des chercheurs, des scientifiques, dont, entre autres, l'entreprise Santivax. Et eux autres, ils ont dit, coudonc, y a-tu quelque chose? On a-tu trouvé le filon avec ce gars-là? Alors, parce que quand même, tu disais, c'est dangereux. Il y a jusqu'à 110 000 personnes qui meurent à chaque année des morsures de serpents. Et produire un antivenin efficace, c'est une tâche assez colossale et c'est complexe. Parce que la façon dont on fonctionne, c'est qu'on se sert d'animaux de grande taille, des chevaux par exemple, ou encore des moutons, puis on récolte les anticorps que ces animaux-là ont développés, puis après ça, on en fait des sérums, des vaccins, et on immunise ou on donne ça aux gens pour combattre justement les morsures de serpents. Mais c'est pas sans risque, parce que c'est fait avec des animaux et tout ça, mais le traitement qu'on est en train de développer avec Tim, ça va permettre de faire un vaccin qui va être beaucoup plus efficace dans la mesure où il a été créé avec un être humain.
Oui.
Et beaucoup moins coûteux aussi, parce qu'on n'aura pas recours à des chevaux et tout ça. Alors, c'est un petit peu ça. Il y a deux anticorps en particulier qui ont intéressé les chercheurs. Et là, on s'est aperçu qu'en mélangeant ça avec un troisième élément connu, on peut faire un vaccin tout simple. Et puis, l'idée dans tout ça, c'est qu'éventuellement, on va accoucher d'un vaccin sinon universel, en tout cas, qui va permettre de combattre beaucoup de morsures. Là, on s'attaque à la famille des élipidés, ce sont les cobras, les mambas, entre autres, le serpent corail et les choses comme ça. On l'a testé sur des souris, ça fonctionne. La prochaine étape, c'est de le tester sur des animaux de plus grande taille, les chiens en l'occurrence. Les chiens se font souvent mordre. Hein?
Oui, bien justement, eux se promènent dans la forêt, ils peuvent être à l'extérieur, puis voilà un serpent.
Voilà, et on va l'essayer, entre autres choses, en Australie, chez des chiens qui vont se faire mordre là-bas, s'il y en a quelques-uns.
Mais tout veut tuer en Australie, de toute façon, même les arbres.
Ben, excusez-moi. Alors, on va essayer ça là. Puis, écoutez, il y a loin de la coupe aux lèvres encore. Là, ça va prendre quelques années parce qu'il va falloir y aller par toute une batterie de tests. Mais si les résultats sont concluants, on va ensuite passer à des essais cliniques chez des êtres humains. Et en parallèle à ce vaccin-là, parce que là, on travaille avec les élipidés. C'est une famille de serpents. Après ça, on va pouvoir passer sur une autre famille. On va travailler sur les vipéridés. Vipéridés, ce sont les vipères, les crotales, par exemple. Serpents sonnettes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va travailler les deux en parallèle, puis à un moment donné, on espère faire un sérum qui va être peut-être pas universel, mais en tout cas pas loin d'être universel, dont on va pouvoir se servir un petit peu partout à travers le monde.
En tout cas, c'est vraiment pour vrai un don de soi. Ça va être utile. Puis, tu sais, je suis contente parce que moi aussi, je ne vais pas en Australie parce que j'ai juste peur d'atterrir et de me faire attaquer par des araignées géantes. Mais un don comme ça à la science, c'est incroyable. Puis en même temps, ben, justement, ces industries-là, ils n'ont pas besoin, ils ont un volontaire.
Ils ont un cobaye qui, lui, se prête de bonne grâce à ça. Ouais. Fait que c'est chouette.
Qui, visiblement, a du plaisir à essayer ça.
Le gars, il aime son ouvrage. C'est ça.
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, chérie? Ah, monsieur le piqué va trouver 4 serpents.
Ben oui, c'est ça. Bonne
Et moi, je voulais te parler, Simon, de Liberté de presse parce que Reporters sans frontières a lancé en fait son classement annuel. Okay. Et tu peux t'en douter, le portrait a changé un peu dans le monde et le Canada a reculé. C'est la première fois qu'on tombe en bas du top 20 des pays en fait où l'information, où il y a une bonne liberté de presse pour les pays. C'est 180 pays quand même qui sont évalués, fait que 21 sur 25, on s'entend. C'est bon, c'est
pas
si
pas pire, mais...
Non, c'est ça. Mais il y a quand même place à l'amélioration. Et selon toi, là, qui ou quel pays pourrait se retrouver en première position où la liberté de presse est le mieux jusqu'à maintenant?
J'ai l'impression que les pays scandinaves doivent être quand même pas pires.
T'es bon. Effectivement, c'est la Norvège ce moment qui est actuellement 2025, là, qui est en première place. Le Canada, comme je vous le disais, recule au 21e rang. Et il y a plusieurs facteurs, en fait, qui sont attribués à tout ça. On parle, entre autres, de la concentration des médias, la pression économique. On le sait, c'est pas toujours facile avec le modèle d'affaires qui base sur les revenus publicitaires. Ça peut compliquer les choses. Les défis juridiques aussi, parce qu'il y a des journalistes qui peuvent se faire poursuivre pour X, Y, Z raisons, parce que, on est dans un pays où on a cette possibilité-là de le faire. Il y a plusieurs éléments comme ça qui font que la liberté de presse recule un peu au Canada et où notre travail à nous en tant que journalistes prend tout son sens. Parce qu'en étant des journalistes dans des petites localités, c'est là où l'information prend tout son sens parce que c'est important et on peut vérifier ensuite nos faits.
C'est bien dit.
Ouais, j'avais envie de plugger un petit peu mon initiative.
C'est à un moment donné, prêcher pour sa paroisse, c'est pas mal.
C'est temps plein ça. Une implication aussi pour la démocratie. Qu'est-ce que ça peut faire, le fait que la liberté de presse diminue au Canada? Moins de transparence. Donc, une presse qui est affaiblie, on est moins en mesure de surveiller les actions de nos gouvernements parce que c'est à ça que ça sert aussi. On parle des gouvernements, des institutions, peu importe. Les médias, c'est le chien de garde de la population.
Exact. Talonné les élus, entre autres choses, pour la reddition de comptes, c'est ça?
Exactement. On parle beaucoup de désinformation, de bien s'informer avec les réseaux sociaux au Canada qui ne diffusent plus les médias d'information traditionnels. Mais il faut trouver une façon autre de s'informer. Fait que des fois, de cette façon-là, la désinformation peut prendre plus de place. Comment on fait pour aller chercher? Puis c'est pas toujours évident. Parce que, on sait, il y a des sites Internet qui sont très bons pour avoir l'air de sites crédibles. Puis on peut... Faut vraiment faire attention de comment on s'informe avec cette désinformation-là. Et l'engagement citoyen, c'est essentiel aussi parce que, ça fait partie des petites histoires, des fois, qu'on peut avoir dans nos différentes localités, ça part d'un citoyen qui dénonce une situation. Puis après ça, on crée un mouvement, puis ça peut monter jusqu'au mouvement national. On a fermé notre bibliothèque, puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de bibliothèques qui ont fermé dans la localité, puis ça a un impact par la suite. Fait que c'est là où c'est important aussi la liberté de presse, puis de pouvoir être impliqué comme journaliste dans les localités. Maintenant, si on veut peut-être trouver des solutions, puis écoute, si c'était facile, ça serait déjà réglé, on s'entend.
C'est sûr. Hein?
Mais on peut essayer d'avoir des pistes de solutions et des pistes de réflexion, c'est un soutien aux médias indépendants, donc des subventions, des incitations financières qui peuvent aider les médias locaux et indépendants à survivre et à prospérer. Puis je dirais plus que survivre, parce que, Mané, quand tu as toujours besoin de chercher de l'argent, tu n'es pas concentré au bon endroit. Ça, c'est la première chose. Puis ça, c'est un message qui va un peu plus haut. Là, nous, on fait ce qu'on peut en tant que médias locaux, mais on espère que les gens plus haut dans les gouvernements nous écoutent. Renforcer aussi le cadre légal, donc protéger nos journalistes. S'il y a quelque chose, de pouvoir leur donner un cadre d'écouter. S'il arrive telle situation, voici quels sont vos recours, voici de quelle façon vous êtes protégés un peu. Il y a des ordres des journalistes un peu partout, mais comment on peut les protéger de façon nationale puis que ce soit égal pour tout le monde et pour toute l'information journalistique au Canada? Puis finalement, faire une sensibilisation aussi aux médias, parce qu'on n'a pas toujours une bonne presse, on n'a pas toujours bonne réputation. Est-ce que c'est justifié? Oui. Est-ce que c'est amplifié? Oui. Tout est dans tout dans ça.
C'est ça.
Mais justement, démontrer le travail qu'on fait, puis après faire une bonne sensibilisation, puis je pense qu'après, on aura peut-être une meilleure liberté de presse ou en tout cas une meilleure sensibilité, puis je pense que c'est important de garder ça ici au Canada. On est 21e, ça va bien quand même, on peut s'en sortir. Et aux États-Unis, ils sont rendus 57e sur 180.
Des surprises dans la salle, mesdames, messieurs? avec ce qui se passe actuellement?
Non, puis tu sais, avec la concentration des médias aussi, ce sont les mêmes grands propriétaires qui sont propriétaires justement de plusieurs petites stations. Fait que ça fait qu'on a de moins grandes divergences d'opinion et tout ça. Mais voilà, faut être conscient de ça. Puis je pense avec ce qui se passe un peu partout sur la planète, ben on peut garder le Canada en force dans un beau positionnement.
En espérant remonter les marches là, tranquillement, pas vite, au fil des années.
Là. Oui, oui, oui. Tu sais, ça nous arrive. On peut prendre des barques. Là. On a pris une débarque cette année. On va recommencer l'année prochaine. Ça va bien aller.
On a les genoux puis les coudes un peu égratignés. Ben, on se frotte puis on repart, comme on dit.
Exactement. On monte les manches puis on y va.
Ben, merci, Cathy, pour l'éveil de conscience. Très intéressant. On va marquer un temps d'arrêt. Dans un moment, c'est toi qui vas commencer le bloc. Tu vas parler de quoi?
Je vais mettre le feu aux poudres. On va parler de bannir les cellulaires à l'école.
Oh, wow! OK, alors, on reste là.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est peut contenir des infos. On vous rappelle qu'il y a une nouvelle voix pour ceux et celles qui viennent de joindre à nous, Cathy Morin.
Salut.
On est là pour encore une demi-heure ou à peu près?
Oui, c'est tout. Ben, j'aime ça. Je vais rester. C'est bien agréable.
Ben oui, c'est ça. Va-t'en pas, là, parce que je vais être tout seul pour remplir l'émission. Pas ça le concept. Tu veux nous parler de quoi là, pour commencer ce bloc-là? Tu veux nous mettre le feu aux poudres, tu disais tantôt.
Oui, ben c'est ça. En fait, je voulais te parler de cellulaire à l'école parce que c'est un sujet quand même qui fait réagir. Juste pour te remettre un peu en contexte, Simon, c'est le 22 avril dernier, la Commission spéciale des impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé mentale et le développement des jeunes. Ça se passe au Québec, en fait. Là. Ils ont rendu public un rapport d'enquête. Et vraiment, on ne mange pas les mots dans ce rapport-là. Là, on recommande une interdiction totale des cellulaires, des écouteurs et des autres appareils mobiles personnels dans les écoles secondaires et primaires du Québec aussi, et ce, dès la prochaine rentrée. Fait que là, on s'entend, on finit l'école là, au mois de juin. Prochaine rentrée, finito pépito. Mais là, déjà...
C'est quasiment demain, là. Je veux dire, c'est l'automne.
Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est demain. Bon, déjà, les cellulaires sont interdits en classe au Québec.
Ouais.
Mais moi, pourquoi ça m'intéressait tout ça? Parce que je me suis dit, ça va peut-être faire des petits. Il y a peut-être d'autres provinces qui vont se dire, oh, on va regarder ce qui se passe au Québec. Puis après ça, si ça fonctionne bien ou si... On va regarder, parce que c'est un fléau quand même, faut le dire. Là. Dans les écrans, c'est de l'intimidation directe aussi. Il y a moins de contact avec les jeunes, il y a moins de contacts en personne, il y a moins d'interactions, il y a plusieurs choses qui font que, bon, ça peut créer certains problèmes. Fait qu'on a recommandé d'interdire ça dès la prochaine rentrée, en fait, parce que c'est un fléau. Et dès la sixième année, en fait, il y a déjà 50 % des jeunes qui ont un téléphone cellulaire. Sixième année, pas là, tu t'entends, on s'entend. Avec le secondaire, ça monte un peu plus haut. Il y a des jeunes qui travaillent, l'employeur vont rejoindre, bon... On comprend, c'est un outil qui est utile aussi, puis un peu comme on parlait tantôt, l'intelligence artificielle, il y a des pour et des contre. Le téléphone aussi, c'est que ça devient plus facile s'il arrive des situations à l'école, on le sait, le contexte est plus difficile, il peut y avoir des situations plus problématiques. Bon, on a un contact avec l'enfant, la même chose avec l'employeur. Puis là, on s'est dit, bon, on va aller consulter les jeunes, parce que là, c'est des adultes hein, qui ont pensé à ça à l'Assemblée nationale, puis se sont dit, bon, c'est pas correct, c'est un rapport, mais on a consulté des jeunes, et que penses-tu que les jeunes ont dit, Simon?
Ils ont dit que c'était pas fin de faire ça, j'ai l'impression.
Ils sont pas ben d'accord.
Vous êtes méchants un petit peu, là, de nous enlever nos bédelles.
Ben, c'est un peu ça. Puis eux, ce que les jeunes nous disent, ben, que c'est un lien social, alors que les adultes disent que ça brise le lien social. Pour les jeunes, c'est un outil d'organisation. Pour les grands, ça désorganise les jeunes. Ils sont pas là, ils sont pas concentrés. Et puis, pour les jeunes aussi, c'est une extension de leur identité. Puis finalement, ben, pour les adultes, ça devient un peu plus problématique. Donc, un peu ça. Pourquoi? Quels sont peut-être les éléments qui sont pour le bannissement des téléphones? Ben, on dit meilleure concentration à l'école, moins de harcèlement, plus de communication réelle entre les élèves. Il y a un cadre clair et uniforme, il n'y en a pas, c'est tout. Hein? Fait qu'il n'y a pas de zone grise, c'est ça qui est ça. Et réduction de l'exposition aux écrans aussi, parce qu'on sait que ce n'est pas nécessairement bon pour plein de choses de développement cognitif et tout ça. Les arguments comptent maintenant. Perte de contact avec les parents.
Ouais.
Moi, je m'excuse, mais au secondaire, ça ne me tentait pas d'appeler ma mère ou de texter.
Ben, c'est un peu ça ma réflexion. On n'en avait pas à l'époque. Moi, je n'avais pas. J'ai jamais eu un téléphone cellulaire dans mes poches pendant que j'étais à l'école secondaire.
Moi, je fais comme partie de la génération, je vais trahir mon âge en vous disant ça, mais comme, ça arrivait.
OK, c'était sur le bord, là.
Oui, puis moi, je textais, il fallait que je fasse 3x6 pour faire.
Ah,
oui, comme,
oui,
c'est
oui.
Comme ça qu'on.
Le feature phone, comme
oui,
on dit, là.
C'est
avec,
ça, okay. Le flip phone, là, qu'on pouvait. Fait que, oui, okay. Mais c'est ça. Fait que la première chose, c'est la perte de contact avec les parents. Mais en même temps, s'il arrive une situation dans la zone école, l'école va contacter les parents.
Ben, il y a des téléphones dans les secrétariats et tout ça. Là,
oui, oui. Ben, aux dernières nouvelles. La dernière fois que je suis allée d'un secrétariat...
Je pense. Probablement.
Tout à fait. On parle sinon d'un impact sur l'autonomie des élèves qui sont plus âgés, donc s'organiser pour le travail, l'utilisation pédagogique du téléphone. Bon, on peut questionner, ouais. Là, tu sais, maintenant, téléphone portable, la tablette, là, bon, avec quoi on travaille et quoi on ferait ses devoirs. L'argument contre le risque d'inégalité aussi, ben, fait que c'est peut-être pas dans tous les établissements que ça va être fait de la même façon, mais en même temps, c'est interdit. Donc, de la rentrée à l'école jusqu'à la sortie de l'école, mm-hmm. t'as pas de téléphone en même temps. Peut-être, mais en même temps, tu sais, les jeunes sont wise, hein. Il y a peut-être des affaires que nous autres, on sait pas, qui sont capables plus vite, tu sais, qui sont assez vite. Puis, sinon, le climat de méfiance aussi que ça pourrait créer dans l'école, tu sais, on serait un manque de confiance. C'est les arguments contre. Oh. Oui, je te vois réagir quand même, mais c'est ce que, tu sais, ça pourrait nuire à la relation école-élève.
OK.
Ça pourrait paraître comme de la répression.
OK.
Mais c'est pas faux en même temps, parce que, tu sais, quand on pense à la prohibition, on s'entend, on avait banni l'alcool, mais ça a juste créé d'autres choses.
Ouais.
Est-ce que bannir, c'est la bonne chose? Peut-être dans les écoles, je dirais oui, parce que c'est quoi la solution après ça? Il y a une sensibilisation à faire. Je pense que ça a été essayé dans les dernières années, puis visiblement, ça n'a pas fonctionné. De pourquoi on s'en va là avec le rapport? Mais c'est jamais bon tout. C'est comme c'est jamais bon avoir trop un téléphone, c'est jamais bon de tout le bannir.
C'est trouver juste le milieu.
Exactement. Puis après ça, ben c'est ça. Mais encore une fois, si ça avait été facile de trouver cette solution-là, ce serait fait. Mais j'avais envie peut-être de faire réagir les gens qui nous écoutent puis d'avoir un peu leur réaction parce qu'en même temps, c'est ça aussi. Puis, tu sais, même moi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on faisait avant avec nos téléphones? Comment on faisait pour rejoindre les gens qui étaient en retard? Ou, tu sais, des fois, se rejoindre au centre d'achat quand on était jeune, bien, on attendait.
Ah ouais.
C'est tout, puis on se donnait une heure, puis c'est toute notre façon de revoir comment on vivait avant. On a oublié ça, mais il y avait une vie avant les téléphones cellulaires.
On penchait d'un bord parce qu'on avait une poignée de 25 cents dans notre poche pour appeler maman puis pour appeler papa pour dans un téléphone public.
Oui, c'est ça, c'est l'autre affaire. Fait que t'avais du bruit de change, mais t'avais pas de téléphone.
OK, merci. Ça va alimenter les discussions, je pense, à table, ça va être intéressant. Une autre affaire aussi qui peut alimenter les discussions, c'est le syndicalisme. Hein?
Oui.
On loge pas tous à la même enseigne. Il y en a qui sont bien pour le syndicat, il y en a qui sont pas pour ça. Puis on voit des grèves de temps en temps à gauche, à droite, puis on se demande c'est quand que c'est né ça, le syndicat? L'idée du syndicalisme, ça date pas d'hier.
Non, j'imagine quand même, ça doit faire...
Écoute, ça fait des centaines d'années. Le syndicat, dans la forme actuelle, existe depuis pas si longtemps que ça, en fait. Mais se rassembler autour d'activités professionnelles communes pour, disons, promouvoir les droits des travailleurs, les intérêts communs, c'est quelque chose quand même qui est assez vieux. Et ça, c'est aussi loin que l'époque médiévale.
Oh, quand même. Donc, les chevaliers se rassemblaient pour...
Bien, c'est un petit peu ça. Parce qu'avant le syndicalisme, comme on le connaît aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle les guildes et il y avait le compagnonnage aussi, qui sont un peu les bases du syndicalisme mm-hmm. dans une certaine mesure. C'était des associations qui ont posé les bases de l'organisation collective des travailleurs. C'est-à-dire que les guildes, à titre d'exemple, ils ont été créés un peu comme des associations professionnelles, comme des ordres dans une certaine mesure.
Ouais.
Et ça, c'était une espèce de mouvement coopératif de personnes qui pratiquaient une activité commune et qui s'étaient dotées de règles et puis de privilèges spécifiques, puis qui demandaient aussi, dans une certaine mesure, la protection d'une ville ou d'un État. Alors, dès le 14e siècle, à titre d'exemple, on a vu apparaître, donc ceux qui pensent que le syndicat, là, c'est des affaires du 20e siècle. 14e siècle, on voit apparaître la Guilde des arbalétiers, albertriers, c'est-à-dire, de Bruxelles, et la Guilde des archers de Saint-Pierre, 14e siècle. Ça, c'est des gens qui étaient les défenseurs de la ville de Bruxelles,
oui.
en Belgique. Et eux autres, ils étaient armés d'arbalètes et d'arcs. Et eux autres, ils s'étaient réunis ensemble. Ils ont créé des guildes, donc des espèces de syndicats, les premiers syndicats, pour défendre leurs intérêts communs.
Mais quand même, puis c'était des emplois quand même difficiles.
Ben, je créerais, tu penses?
Tu défends la ville avec ton arche. Alors, je peux comprendre. Donc, on se rassemble pour des intérêts communs pour défendre.
Okay. C'est ça, pour justement, pour promouvoir, pour aller voir le roi, par exemple, ou encore aller voir les seigneurs, puis dire, ben là, on aurait besoin d'un peu plus d'argent, on aurait besoin de plus de flèches.
Améliorer les conditions.
Améliorer les conditions. Alors, ce sont déjà au 14e siècle, au 14e siècle, oui, les premières manifestations, une espèce de forme de syndicalisme, mais il va falloir attendre quand même plusieurs siècles avant que ça change. Parce que ça, c'était quand même assez basic. Il n'y avait pas de carte de membre, il n'y avait pas de...
Non, j'imagine que la communication de comment ça fonctionnait, puis il ne devait pas avoir d'AGA non plus.
Et qu'est-ce qui, selon toi, a amené la grande transformation des syndicats? Et c'est quand même assez récent.
Ah ouais, hein? Assez récent? Écoute, je vais en mettre sur la grande noirceur.
Non, un petit peu plus vieux que ça. Révolution industrielle.
Ah, oh, OK. Moi, j'étais un petit peu trop récente.
Ouais, révolution industrielle, c'est ça qui est venu changer la donne, l'arrivée des usines.
Entre
autres choses. Les ouvriers se retrouvent à travailler dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Les journées sont longues, la protection n'est pas tellement là. Et au Royaume-Uni, dès 1850, la population urbaine dépasse déjà la population rurale.
Oh!
en 1850. Et là, ben, en 1880, 26 % des Britanniques vivaient dans des villes de plus de 100 000 habitants et 10 % étaient dans des villes de plus de 100 000 habitants en France et 8 % en Allemagne. Et c'est cette industrialisation et cette vie urbaine qui a entraîné par la force des choses la syndicalisation au milieu à peu près du 19e siècle, aux alentours des années 1850.
Ouais, pour améliorer les conditions. Puis comme tu dis, c'était des villes industrielles, donc c'était des gens et des gens et des gens, donc pour pouvoir avoir...
Et il y a eu donc des luttes, évidemment, qui ont été parfois violentes, je vous dirais même dans certains cas, voire meurtrières dans certains cas, parce qu'on voulait faire valoir les droits des ouvriers et la reconnaissance. Et c'est comme ça qu'au Royaume-Uni, la législation évolue pour faire entrer le Trade Union Act en 1871.
OK.
Et qu'on appelle le Conspiracy and Protection of Property Act de 1875, et c'est là qu'on voit germer, dans les années 1800, le syndicalisme. Mais la vraie, de vraie loi qu'on considère comme la loi qui a créé le syndicalisme comme on le connaît de façon, j'allais dire universelle, mais disons mondiale, un peu de la façon qu'on le connaît aujourd'hui, c'est la loi qu'on appelle Waldeck-Rousseau, le 21 mars 1884, et elle autorise non pas la protection des travailleurs, mais elle autorise carrément la création des syndicats professionnels.
En 84?
En 1884.
OK, quand même, ça a été rapide après.
Oui, c'est ça. Alors, en France, parce que là, en Grande-Bretagne, on l'a dit, 1871-1875, on autorise le monde à, comment je dirais ça,
s'organiser.
Tu sais, oui, vous avez le droit là, de demander des meilleures pauses puis des meilleurs salaires, des choses comme ça. Mais 1884, la loi en France dit, vous avez le droit de vous organiser en syndicat, vous avez le droit de vous faire des assemblées syndicales et tout ça. Et c'est ça qui, dans une certaine mesure, qui est à toute fin utile, comme l'acte de naissance du syndicalisme.
Ça s'est passé en France quand même, c'est intéressant. Puis après, c'est arrivé plus tard au Canada, j'imagine?
Ben oui, ben exactement, avec la vague migratoire et tout ça. Et au 20e siècle, le syndicalisme s'est étendu à d'autres secteurs, à d'autres pays. Et le mouvement a quitté l'Europe pour, comme tu le dis, aller sur d'autres continents, nommément l'Amérique, entre autres choses, avec les gens qui venaient s'installer là. Et à ce moment-là, les syndicats ont élargi leurs revendications. Ils ont développé des services pour leurs membres. Ils faisaient pas juste brasser des pancartes,
c'est
une vraie expression. Ils disaient, ben, on va s'organiser pour avoir de l'assistance juridique. On va avoir des formations pour nos membres. On va avoir, des rabais à telle place.
La sécurité au travail.
La sécurité, voilà. Mmh. Et elles ont joué, dans une certaine mesure aussi, un rôle assez déterminant dans l'instauration de ce qu'on appelle l'État-providence.
Oh, hey, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça.
L'État-providence, c'est, par exemple, les normes du travail.
Tout à fait.
C'est les congés fériés. Une banque de données de congés fériés. Ça, c'est le mouvement syndical.
Les avantages sociaux, là.
Les avantages sociaux, l'assurance-emploi, tout ça. Alors ça, ce sont les syndicats qui ont travaillé avec l'État à créer ce qu'on appelle l'État-providence, à quelque part.
Donc, la partie de l'État qui contribue à faire nos avantages sociaux. Parce qu'en tant que travailleur, on le fait, mais l'État contribue aussi à sa partie.
Exactement. Et c'est à partir de ce moment-là que le syndicalisme a fait face à de profondes transformations, évidemment. Puis il y a eu des gens qui ont commencé à se demander « ça vaut-il encore la peine, le syndicat et tout ça? »
Mais ça varie. Il y a toutes sortes d'expériences avec les syndicats aussi, puis il y a toutes sortes d'histoires. Mais quand même, je pense que ce qu'il faut retenir avec ces syndicats-là aussi, c'est que l'important, c'est d'améliorer nos conditions de travail puis de pouvoir avoir un travail qui est sécuritaire et valorisant.
C'est ça. Et il y a même eu de telles tensions idéologiques là, qu'après la Seconde Guerre mondiale, le syndicat a été obligé de se renouveler dans une certaine mesure, et essayer à partir de ce moment-là de plus tellement se limiter à des frontières nationales ou régionales, mais d'essayer d'étendre son affaire, tu sais, ses impacts à l'échelle internationale. Et c'est après, justement, les deux grandes guerres, dans une certaine mesure, qu'on a vu naître des organisations comme, entre autres choses, la Confédération syndicale internationale. Et c'est un regroupement qui compte aujourd'hui, tenez-vous bien, 170 millions de membres,
wow.
155 pays, et il y a 311 confédérations syndicales à l'échelle nationale qui sont regroupées dans ce mouvement international. Alors voilà, vous saurez maintenant que le syndicat, ça date pas d'hier, puis que si ça existe aujourd'hui, ben encore, ça a eu un certain impact sur la société. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas le syndicat, là, comme
tout
on dit.
Fait. Et ça a évolué, c'est la beauté de la chose. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça va s'adapter aussi avec le temps puis à la réalité de ce qui s'en vient pour nous en tant que travailleurs.
Exactement. Petit temps d'arrêt, puis dans un moment, là, tu vas mettre, tu vas mettre en jeu nos connaissances à moi puis aux gens qui nous écoutent aussi.
Oui, nos connaissances sur notre beau pays qu'est le Canada. Donc, préparez-vous puis ressortez vos cours d'histoire.
Alors, parfait, le quiz dans un moment.
Peu contenir des infos.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
Dernière ligne droite de l'émission peut contenir des infos avec notre nouvelle partenaire, nouvelle collaboratrice et co-animatrice, Cathy Morin, qui va mettre à profit nos connaissances.
Oui.
En géographie et
histoire,
tout ça.
Histoire, un peu de, sur le Canada, le Canada. Ouais, en général.
De façon générale.
Culture générale du Canada.
OK. Combien de questions?
10 questions. J'avais envie de faire un beau chiffre. 10 questions. Puis j'ai des choix de réponses quand même. Ça va vous donner une chance.
T'es fun.
Puis j'ai essayé d'aller en chercher un peu partout, mais je pense que ça va être bon, Simon. C'est pas si compliqué que ça. Oui.
OK.
Mais tu sais, quand même, pour la première fois, je voulais pas avoir l'air trop sévère.
Ben, écoute, tu sais, à un moment donné.
Les gens vont penser quoi de moi?
Ben, c'est ça. Puis c'est ça. C'est que le monde qui nous écoute actuellement, que ce soit, je sais pas, moi, au travail, à la maison, dans l'auto et tout ça, ils vont jouer avec nous autres. C'est ça la beauté du quiz.
Exactement.
On apprend en même temps qu'on s'amuse. C'est ça. 10 questions, tu commences?
Oui, on part ça maintenant. Donc, Simon, selon toi, combien de fois le Canada a-t-il accueilli les Jeux olympiques? On a 0 fois, 3 fois, 5 fois ou 7 fois?
De mémoire, je dirais 3 fois.
Bonne réponse! On a les Jeux olympiques de Calgary,
oui,
de Montréal et les plus récents, Vancouver en 2010.
C'est ça.
Voilà. Fait que c'est...
Deux Jeux d'hiver puis une Olympiade d'été à Montréal.
Oui, exactement. C'est en plein ça. Tu as plus de détails que moi-même dans ma propre réponse. Tu vois, je ne suis pas inquiète pour toi. Ça va, ça va être un
mais
bon
non, c'est correct, mais en même temps, ça fait travailler nos souvenirs, notre mémoire.
Mais j'avoue que moi aussi, j'ai fait le quiz avant d'aller voir les réponses. Je me suis dit, je vais me tester moi aussi à savoir si j'avais eu la bonne réponse.
Okay.
Deuxième question. Quelle province est réputée pour l'observation des icebergs? Le Québec, Terre-Neuve-Labrador, le Yukon ou l'Ouest canadien?
Ah ben là, l'Ouest canadien, non. Mais je dirais probablement Terre-Neuve et Labrador.
C'est encore une bonne réponse, félicitations. Donc, c'est là où on peut voir le plus de glaciers. La bonne période s'étend de fin avril, donc à la mi-juin. On est pas mal là.
Oh!
Hey, c'est la saison des glaciers.
OK.
Fait que, comme en ce moment, là, si vous êtes dans le coin de Terre-Neuve, Labrador, sur le bord, là, c'est le temps d'observer ça. Ça devrait se passer.
Booker un petit bed and breakfast, là, quelque part à Saint-Jean-Terre-Neuve ou dans les environs, puis...
Hey, c'est tentant, ça, comme propos.
C'est tentant, tu dis. Hey, que c'est tentant, maison.
Avec l'air. Ah, oui. Puis en même temps, ben pourquoi pas, lequel de ces plats n'est pas typique du Canada? Est-ce que c'est la poutine, le mac and cheese, les queues de castor ou encore le gâteau au chocolat et aux pommes de terre?
Hey, attends un peu, c'est une bonne question, ça, attends un peu.
Faut pas que ça vienne du Canada.
Faut pas que ça vienne du Canada. Je dirais peut-être le mac and cheese.
Hey, bravo! Mais t'es allé par élimination quand même, avoue.
Ben, les patates, là, dans le gâteau. Si t'avais pas mis les patates, le gâteau au chocolat, mettons, la diable, ou je sais pas trop, là, j'aurais peut-être pas été capable. Mais là, j'ai fait l'association. J'ai dit, ça doit venir probablement de l'île du Prince-Édouard, ou je sais pas trop.
C'est en plein ça.
Tu réponds?
Oui, ça vient là. Donc, le gâteau au chocolat et pommes de terre, ça vient de l'île du Prince-Édouard.
Okay.
Les queues de castor de l'Ontario, évidemment, sur le bord du canal, quand on patine.
Il y a un kiosque de queues de castor pas loin ici dans le marché Bail, là, où on est planté.
Oui, ben, ça fait partie des choses, mais pas trop souvent que je vais aller manger, parce que c'est bon, mais pas pour les hanches.
Ben c'est ça.
Voilà. La poutine, évidemment, ça vient du Québec. Et le mac and cheese, en fait, c'est un plat qui est typiquement américain.
Okay.
Mais évidemment, très, très apprécié ici au Canada et par les enfants, évidemment.
Pour quelqu'un qui ne le saurait pas, là, on aurait bien de la misère à dire que le mac and cheese, c'est tellement implanté dans nos us et coutumes, dans nos mœurs, on va dire,
ben,
de manger même avec, je dirais, des petits bouts de saucisse dedans, des fois.
Oui, c'est ça. Le fameux macaroni au fromage.
Oui, avec des saucisses.
Hey, ça, c'est de la grande gastronomie.
Ça, c'est de la gastronomie d'étudiants d'université.
Oui, et je vais te faire une confidence. Il y en a actuellement dans mon frigidaire pour mon enfant de 3 ans qui trippe beaucoup trop sur ça. Quand il est faim, là, une fois de temps en temps, là, il a le droit de goûter.
On a le droit de se gâter de temps en temps, c'est ça.
Quatrième question maintenant. T'es 3 en 3, félicitations. Lâche pas. Quelle est la hauteur des chutes Niagara? Est-ce que c'est... Là, je suis en mètres, là. T'es peut-être en pied. Moi, je suis pas bonne, mais en tout cas, 57 mètres, 74 mètres, 39 mètres ou 101 mètres?
Je le saurais pas. Là. Je peux pas aller puiser. T'as dit 39 mètres?
Oui, j'ai dit 39 mètres. Ça fait partie des choix.
Puis c'est quoi l'autre choix? Les 1, 2?
57, 74, 39 ou 101?
74 puis 101, ça me semble un peu haut, là. Je vais dire 39, mettons.
Première mauvaise réponse.
Ah,
c'est 57 mètres ou 188 pieds.
OK.
Donc, c'est la partie canadienne là, qui s'appelle le Horseshoe Fall. Donc, voilà, c'est. Puis, le côté américain, c'est entre 21 et 34 mètres, donc 70 à 110 pieds. Donc, on peut aussi se vanter qu'au Canada, on a la plus haute partie des chutes Niagara.
Bon, fait que ça fera une affaire à garrocher à la face du président. Tu vois, là, comment.
Ouais, c'est
les chutes sont plus hautes que les
Ma tiennes. Chute est plus haute que la tienne.
Ma chute est plus haute que la tienne. Ça se dit bien dans un quiz, mais ça se dit, il y a bien des circonstances où je dirais pas ça.
Oui, effectivement. Peut-être un souper de famille, ça pourrait être déplacé. Maintenant, prochaine question. Quelle ville est réputée pour être la capitale mondiale des ours blancs? On a Dawson City au Yukon, Churchill au Manitoba, Radisson au Québec ou Yellowknife au territoire du Nord-Ouest. Dans le territoire du Nord-Ouest.
J'hésite parce que je pense que... j'allais dire Yellowknife. Je suis allé au territoire du Nord-Ouest.
OK.
Puis il me semble que il y avait comme une espèce de mascotte d'ours polaire, d'ours blanc, malgré que Churchill... Je pense avoir vu un documentaire. Je vais dire Churchill, mettons, au Manitoba. Je vais dire ça parce qu'il me semble avoir vu un documentaire où il parlait de ça.
Ben bravo! T'as bien fait de pas te fier à ta première impression. C'est vraiment Churchill au Manitoba qui est reconnu comme la capitale mondiale.
Capitale?
Oui. Pas juste au Canada, là. Mondial.
Mondial.
Pour les ours blancs, c'est l'endroit qui est le plus accessible au monde pour observer les ours blancs à l'état sauvage. Donc, après avoir passé l'été à se reposer, les ours blancs commencent à s'animer le long du rivage à l'approche de l'hiver. Et ils attendent donc, évidemment, avec impatience, la formation des glaces pour aller chasser.
Tu m'avais dit attendre les humains avec impatience pour courir après.
Oui. Mais ça dépend de ton karma en tant qu'humain.
C'est pas fin. Ils nous attendent de même.
Mais non, mais ils attendent la paire de chasse. Ils mangent des poissons. C'est ils vont ça. Pêcher. Ils vont se baigner.
Ben oui.
Ils vivent leur vie d'ours.
Une vie d'ours. Mais t'es aussi bien de vivre une vie d'ours là que de vivre une vie d'ours dans un zoo. Tu sais.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Sixième question. Laquelle de ces inventions n'est pas québécoise? La motoneige, le talkie-walkie, le jeu trivial poursuite ou le beurre d'arachide? Ou le beurre de peanut?
Hey boy! Tu disais le talkie-walkie, walkie-talkie?
Oui.
Les petites espèces de patates.
Oui, c'est ça. Tu peux répondre. Salut, t'es où?
Bon, je dirais que c'est pas québécois. Ça doit être américain ou japonais, là.
C'est la bonne réponse.
Ah oui, hein?
Ce n'est pas québécois, les talkies. Okay. Hey, t'es vraiment bon.
OK.
Tu connais ton Canada.
mais j'ai pris un gars. J'ai dit, je sais pas. Ça me semble être une patente qui a été inventée, genre au Japon, je sais pas trop.
Non, par contre, ça, c'est la partie où t'es faux. C'est pas québécois, c'est canadien.
Ah,
le talkie walkie.
Ah,
oui, ça a été inventé par Donald Ings, qui est un ingénieur canadien. C'est pas québécois, mais c'est canadien. Pour ton information, le jeu trivial poursuite a été inventé en 79 par un Montréalais.
OK.
La motoneige, c'est Joseph Armand Bombardier, on le sait. Dans les années 50, le beurre d'arachide a été inventé en 1884 par le Montréalais Marcellus Gilmore Edson, qui a eu l'idée de breveter une recette de pâte d'arachide ayant la consistance du beurre.
OK.
C'est un peu moins marketing, là. Pâte d'arachide.
Pâte d'arachide, consistance de beurre, oui.
T'as le temps de finir ta toast avant de dire le nom, là. Mais voilà. Fait que voilà. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans cette question-là.
Ben, je créerais.
Quand même. Septième question. Dans quelle province ou territoire est situé le mont Logan, qui est le plus haut sommet au Canada? Est-ce que c'est la Colombie-Britannique, le territoire du Nord-Ouest, le Yukon ou l'Alberta?
Le mont Logan. Attends un peu, là. Il va vraiment falloir... Si les gens à la maison, vous le savez, ben vous êtes bons, mais moi, je vais prendre vraiment...
Il y a peut-être des gens en ce moment à la radio qui te crient la réponse. « Ouais, Simon,
ben,
c'est ça! »
Il y en a certainement, mais je les entends pas. Ils crient pas assez fort, c'est ça l'affaire. Tu sais, je vais prendre une chance. On va dire, mettons, comme... je vais y aller avec l'Alberta, parce qu'il y a beaucoup de montagnes, mais je suis pas sûr que ce soit ça.
Ça aurait été un bon guess, mais c'est la bonne réponse, c'est le Yukon.
Ah, le Yukon, OK.
Donc, c'est le plus haut sommet au Canada, qui est 5 959 mètres d'altitude, presque 6 000 mètres d'altitude, et ça a été nommé ce mont-là en l'honneur de Sir William Edmond Logan, qui est un géologue canadien et fondateur de la Commission géologique du Canada.
Ah, ben, tu sais.
Il y a quand même une raison.
Oui, il y a un petit peu.
C'est ça. Tiens, plein de montagnes. Hey, Edmond Logan. Ça, c'était un peu.
Il y a un petit background, on va dire.
Oui, un petit peu, une petite affaire. Huitième question, ça va bien quand même. Tu as deux mauvaises réponses jusqu'à maintenant.
Oui, c'est pas pire.
Quelle ville est à mi-chemin entre Montréal et Vancouver, comme presque le centre du Canada? Est-ce que c'est Winnipeg, Calgary, Edmonton ou Saskatoon?
Ah, je vais dire Saskatoon.
Mauvaise réponse, c'est Winnipeg.
Ah, c'est Winnipeg.
Oui, à mi-chemin, donc soit 2300 km de Montréal. Bien, mi-chemin, puis 2500 là, de Vancouver.
Ouais, ouais, ouais.
Mais
il
faut dire qu'il y a de l'eau, fait que, on ne pourrait pas arrêter des fois au milieu.
Non,
mais,
je comprends.
Quand même. Donc, c'est. Puis en plus, à cet endroit-là, il y a un panneau géant avec une photo qui annonce justement le centre géographique du Canada. Fait que c'est un bel endroit là, pour pouvoir aller prendre des photos puis faire le touriste ou la touriste, évidemment.
Oui, puis on cherche des places là, au cours de la saison estivale, justement, pour faire le tour du Canada plutôt que d'aller chez les voisins du Sud, là, pour les raisons qu'on connaît.
Où ça?
On ne le dira pas.
Non, c'est ça.
Alors, pour
ça.
Faire le tour du pays, donc, pointez vers Winnipeg, puis vous allez aller au centre presque géographique du Canada, dans une certaine mesure.
Oui, exactement, avec une vue imprenable là, qu'on a là-bas. Maintenant, neuvième question s'achève. En quelle année le rocher percé a-t-il perdu son deuxième trou? Parce que tu savais qu'il y avait deux trous.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est en 1775, 1845, 1925, ou il n'y a jamais eu deux trous?
Ça, ben, il me semble qu'il y a eu deux. Il y a eu oui. deux trous. Moi, je me souviens qu'il y avait. Oui, il y a eu
J'ai
deux.
Fait de la radio pendant trois ans en Gaspésie, je te confirme, il y a eu deux trous.
Il y a eu deux trous. Ouais. Un petit, je pense, puis un plus gros, là, celui qu'on.
Oui, c'est comme deux arches.
Ouais.
En fait, c'est vraiment deux arches.
Un peu là. Ça doit être assez récent, d'après moi, 1925, je veux dire.
1845.
1845?
Oui, quand même, ça fait longtemps. Ouais, hein? Je pense qu'on a une couple d'ancêtres qui n'ont pas vu ça.
Bien, j'ai comme ni mon grand-père ni mon arrière-grand-père.
c'est ça. Et ça s'est, en fait, le deuxième trou s'est effondré après une tempête qui a fait des forts vents avec des marées, puis c'est de cette façon-là que le deuxième trou est tombé. Puis là, maintenant, on dirait un cheval qui boit de l'eau avec une espèce de roche là, juste au-dessus.
OK.
Si vous n'avez pas eu la chance d'aller en Gaspésie, là, c'est de toute beauté. Et finalement, donc, on
cinq.
Est à 5. OK,
cinq
ça va bien. Parfait, quand même. On y reste une chance.
J'espère avoir 60 %, tu sais.
Ah, je te le souhaite.
Ben oui, parce qu'à la petite école, ça prend 60 % pour passer.
Oui, tout à fait, c'est ça. Bon, OK, on ne mettra pas de pression, mais c'est la dernière question.
OK.
Combien de kilomètres séparent Cap Spear, le point le plus à l'est du Canada, et Tofino, sur la côte ouest de l'île de Vancouver? Est-ce que c'est... je regarde la face. Est-ce que c'est 3500 kilomètres, 5000 kilomètres, 7000 kilomètres ou 8500 kilomètres?
Je vais séparer. Tu disais 7000 kek?
Oui, j'ai eu 7000.
7000? Bon, je vais y aller pour 7000, mettons.
Bonne réponse.
Ah ouais.
Yes, t'as passé.
Oh, fiu, par la peau des nerfs, comme on dit. Oh, yo, yo, yo.
Oui, donc vraiment, le Canada, distance entre les deux extrémités, ouais. 7000 kilomètres. Fait que si vous prévoyez justement cet été de faire le tour du Canada coast to coast, bien, 7000 kilomètres, on calcule ça une couple de semaines, on devrait être pas pire.
Oui, oui, puis calculez que ça va prendre une carte de crédit pour payer l'essence parce que vous allez en faire une couple de plein là, si vous prenez l'auto. Là.
Oui, oui, même si t'es économique, là, t'as pas le choix, il va falloir faire quelques pleins, effectivement. Et quand même, t'en es bien sorti.
Oui, pas si pire, 60 %. Ouf! As-tu aimé ta première expérience?
J'ai adoré ça, c'était le fun. Puis j'aime ça faire des quiz, c'est quelque chose de ludique.
De magique.
Ouais, c'est ça.
On apprend en même temps, puis c'est ça, on s'amuse. Bien, merci beaucoup, Cathy.
Merci à toi, Simon.
Cathy Morin, qui était là pour cette première émission avec moi, là, pour un peu contenir des infos. On va se retrouver la semaine prochaine?
Oui, je vais être là, j'ai aimé ça, fait, je vais revenir.
Parfait, super. Alors, on va t'attendre, puis c'est moi qui vais s'occuper du quiz, par exemple, la semaine prochaine.
Je vais essayer de faire mieux de toi.
Parfait. Ouais. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là, puis on se retrouve un autre tantôt pour un peu contenir des infos. Bye-bye.